propose qu'on enchaîne sur la deuxième intervention, donc de Madame Anne Josso.
Bonjour à toutes et à tous. C'est avec un peu d'émotion que je m'exprime, salle Larocque, parce que c'est un temple du savoir où les institutions comme la Miviludes interviennent rarement. Je pense qu'il est absolument nécessaire, sur la question de la radicalisation, d'avoir des temps d'échange où la réflexion prime sur l'émotion, où loin des médias, des professionnels s'expriment devant leurs pairs, et non pas pour conquérir des parts de marché. Puisque la mission interministérielle de vigilance et de lutte contre les dérives sectaires est certainement peu connue de l'auditoire, et je l'en excuse, je me permettrai de préciser des missions. Et le positionnement de la Miviludes par rapport à la question de la radicalisation djihadiste. La mission observe, informe, coordonne les services dans la prévention et la lutte contre les dérives sectaires qui ont une définition en droit français, contrairement à la religion, la secte ou même la radicalisation qui a fait une timide entrée dans quelques décrets mais qui n'a pas encore une définition dans la loi française. La dérive sectaire est avérée quand on peut mettre en évidence l'emprise mentale, qui est un état de suggestion psychologique où la personne est dépossédée d'une part de son libre arbitre et qui occasionne des dommages pour elle-même, pour la société, parfois, mais assurément pour les proches. Cet état est déterminé par une expertise psychologique ou psychiatrique et cet état est reconnu comme celui d'une victime que l'État se doit de protéger au nom de la protection des libertés et de la sécurité des personnes. La question reste donc entière pour les mineurs, mais il n'est pas raisonnable de considérer que l'ensemble des personnes qui se radicalisent sont des victimes. Ce serait nier leur engagement volontaire pour une cause dont elles connaissent les finalités, dont elles connaissent les moyens d'action. La violence légitimée, centrale dans l'idéologie salafiste, djihadiste, et cela même si elles ne connaissent pas, je dirais, leur destin, elles ne connaissent pas à l'avance leur rôle, le rôle qui leur sera assigné dans le cadre d'une stratégie de mobilisation des ressources. Pour résumer, la Miviludes travaille sur l'adhésion inconditionnelle à des croyances extrêmes, extrême au sens, je reprends les explications de Gérald Bronner, le sociologue, qui, extrême dans le sens où elles sont peu partagées et surtout extrême dans le sens où elles sont sociopathiques. Ces croyances ont un rôle central dans la mobilisation du groupe et dans la motivation de l'individu. La Miviludes voit de nombreux points communs entre la radicalisation djihadiste et les dérives sectaires, à commencer par les techniques de manipulation qui induisent une modification profonde du sujet, sa rupture avec un environnement familier, la dépendance au groupe, la coupure avec la réalité, la soumission totale à la cause. Pour autant, la Miviludes ne considère pas que la radicalisation djihadiste est une dérive sectaire. Des études plus approfondies sont nécessaires, mais d'ores et déjà, les observations cliniques des personnes radicalisées rejoignent bien des points, celles des victimes d'emprise mentale. Des personnes ont trouvé dans l'adhésion et l'engagement des réponses à un mal-être. Elles croient agir librement. Elles sont sourdes à des arguments qui apportent un démenti à ce qu'elles tiennent pour juste. Quand des dissonances les conduisent à prendre des distances, elles restent longtemps dépendantes, ambivalentes. Les études sur les conduites addictives offrent aussi des parallèles intéressants. La Miviludes contribue au dispositif gouvernemental de prévention et de lutte contre la radicalisation en étroite coopération avec le Centre interministériel de prévention de la délinquance et de la radicalisation, le CIPDR, dépendant du ministère de l'Intérieur, alors que la Miviludes, j'ai oublié de le préciser, est rattachée au Premier ministre. Donc, la Miviludes apporte une réflexion sur les mécanismes à l'œuvre dans le processus de radicalisation. En gros, elle répond à la question « Comment se radicalise-t-on ?» Donc, elle a présenté cette année cette synthèse sur le processus de radicalisation dans une centaine de sessions de formation. Et elle a animé un groupe de travail interdisciplinaire sur la prise en charge psychothérapeutique. Excusez-moi, je recommence. Psychothérapie des personnes radicalisées. Pourquoi cette initiative ? L'AMIVILUT travaille depuis de très longues années avec des associations qui prennent en charge des familles de personnes touchées par les dérives sectaires. Certaines de ces associations se sont saisies du sujet de la radicalisation. Et l'AMIVILUT a travaillé avec des psychiatres, des experts sur le sujet de la dérive sectaire. Et du coup, on avait déjà des contacts. Et il nous avait semblé nécessaire d'organiser un temps d'échange. Alors, je n'ai pas le temps ici de faire un point sur ce qu'on entend par radicaliser. Simplement pour vous donner juste quelques éléments sur la façon dont on analyse la situation. Donc ça, c'est la présentation que nous faisons dans les sessions. Donc d'abord, on précise que le processus de radicalisation est multifactoriel. Donc il met en jeu des facteurs individuels, les vulnérabilités liées à l'adolescence que vous connaissez parfaitement, le faible engagement social, éventuellement une psychopathologie, des parcours de délinquance, manque de repères culturels, des traumatismes, parfois très précoces effectivement. Un deuxième registre, les facteurs relationnels, l'appartenance à un groupe, à une fratrie, à un réseau, la rencontre d'un leader charismatique, parfois en prison, mais pas forcément. Un troisième niveau qui est le niveau de la communauté, l'isolement communautaire, l'offre contre-culturelle extrémiste qui peut être une réponse à cet isolement. Et enfin, le contexte international, la situation géopolitique, bien sûr, le sentiment de marginalisation qui est identitaire. Bon, ça, c'est pas très, très bien regroupé. Donc, un processus multifactoriel et un processus graduel, plus ou moins rapide, où entrent en résonance des mécanismes cognitifs, émotionnels, axiologiques, donc le registre des valeurs morales. En mars 2016, la MIVILUD a invité des professionnels disposant d'une expérience de prise en charge des personnes radicalisées ou en voie de radicalisation, une cinquantaine de psychiatres, pédopsychiatres, psychologues, psychanalystes, sociologues, éducateurs spécialisés, travaillant dans des structures différentes, EPSM, MDA, associations, aussi dans des établissements publics, ont répondu à l'appel et accepté de partager leur expérience et leurs observations cliniques et apporter leur concours à l'élaboration d'outils méthodologiques pour penser la prise en charge de ces personnes. Je lis parce que c'est pas très agréable, mais comme il faut aller vite. Le groupe s'est réuni en trois séances en mars, avril, mai 2016 et des contributions écrites ont complété les échanges. La synthèse des travaux permet de confirmer que les différentes approches et offres de prise en charge peuvent être complémentaires et s'enrichir des échanges entre les professionnels. Je dois dire que les questions soulevées lors de ces séances ont été plus nombreuses que les réponses, mais je pense que ça, c'est lié aux personnes qui étaient invitées ou qui ont l'habitude de s'interroger et qui ont parfois quelques difficultés à répondre précisément. Donc, nous avons eu bien des difficultés à apporter des synthèses et surtout à répondre à quelques questions auxquelles nous souhaitions répondre au départ. Alors, quelques grandes orientations se dégagent. D'abord, sont sans doute des évidences pour vous, mais il y a des évidences qui peuvent toujours être rappelées. différents acteurs peuvent intervenir dans la prise en charge qui doit être individualisée. Mais différents acteurs, ça veut dire qu'il faut vraiment développer une culture de l'échange entre des professionnels qui n'ont pas forcément l'habitude de travailler ensemble et qui ne parlent pas la même langue. Et donc là, il y a des marges de progression importantes dans certains secteurs. Effectivement, la culture des maisons des adolescents qui fait un travail, fait intervenir des professionnels de différentes disciplines, ont développé ces compétences. Mais dans bien d'autres secteurs, et je pense notamment au travail qui doit être fait dans les cellules préfectorales de suivi, il y a une vraie difficulté à partager et à faire se rencontrer et échanger des professionnels de disciplines très différentes. La coopération, elle est nécessaire à toutes les étapes, de l'évaluation des cas de possible radicalisation à celle de l'effectivité de la prise en charge. Pour prendre en compte toutes les dimensions de la radicalisation, la dimension idéologique, religieuse, affective, les stratégies de dissimulation, le rôle de l'environnement, du groupe et les aspects de sécurité qui ne doivent pas non plus être négligés. Alors, il est difficile en quelques minutes de vous livrer la richesse des échanges lors de ces séances de travail. Nous allons diffuser prochainement une synthèse, mais je voudrais donner quand même quelques indications. Bien sûr, on a beaucoup insisté sur la diversité des profils. Je rappelle, je ne sais pas si vous avez les chiffres en tête, que actuellement 15 000 personnes sont signalées comme en voie de radicalisation. La grande majorité, la moyenne d'âge est à 26 ans, mais la grande majorité se situe effectivement entre 15 et 30 ans, avec des gens de plus en plus jeunes, 12, 13, 14 ans, qui sont signalés comme en voie de radicalisation. Donc on est quand même sur une population qui est majoritairement adolescente, avec, parfois, on a tendance à allonger un peu le temps de l'adolescence. Donc des profils extrêmement divers et des trajectoires individuelles d'engagement très différentes. Et je dirais qu'on découvre chaque jour de nouveaux profils. Pour la plupart, ça remet peut-être un petit peu en cause ce que vous avez présenté, mais c'est normal. En fait, chaque institution reçoit une catégorie du fait qu'elle travaille avec une préfecture ou que c'est la protection judiciaire ou l'ASE, etc. Donc, elle voit des catégories. Mais sur l'ensemble, on voit que les troubles psychiques sévères au départ de l'engagement ne concernent qu'une toute petite catégorie de jeunes. Oui, d'accord. Oui, enfin, effectivement, mais il y a des vulnérabilités. Oui, on y reviendra. Il y a des traits saillants dans la population des personnes signalées, donc évidemment la jeunesse, donc beaucoup de cliniciens parlent de nouveaux mots pour qualifier la radicalisation. Une recherche d'une issue à un malaise existentiel, ça pour la plupart des cliniciens c'est une évidence. Serge Effès parle de prothèse identitaire, Toby Nathan d'Améran qu'on accroche, mais finalement c'est quand même toujours l'idée que la radicalisation répond à un malaise et comble quelque chose. Donc les personnes trouvent un projet de vie, des opportunités, un sens, un enthousiasme, un enchantement, l'espoir de devenir quelqu'un, d'intégrer un groupe d'élite perçu comme hyper puissant, etc. Tout ça est bien connu. Le processus de radicalisation peut suivre une lente progression ou au contraire se développer de façon plus impulsive en quelques semaines. La radicalisation conduit à transformer des personnes entre guillemets, normales, en fanatiques, pour lesquels conviction, croyance ne tolèrent aucune contradiction, aucun compromis, une diabolisation du monde et un rejet de la société, un désir de purifier le monde, d'imposer une vision idéale. On observe des comportements addictifs, frénétiques, aux réseaux sociaux, aux sites, aux vidéos, un lien fusionnel avec le groupe, une intolérance agressive à la différence, une déconsidération pour autrui, voire de la haine, perte d'individualité, désubjectivation, réduction des affects, délire paranoïaque, abolition du surmoi. On peut aller jusque-là. Les cliniciens identifient plusieurs degrés d'implication dans la radicalisation, mais il reste extrêmement difficile d'évaluer la dangerosité et les risques de passage à l'acte. Ce que tous les cliniciens disent, enfin, tous ceux que nous avons rencontrés. Certains disent qu'ils sont, sont dangereux et que même si une toute petite minorité passe à l'acte. Donc dans le schéma que je montrais, voilà, il y a une entrée marche par marche dans la radicalisation. Et pour autant, ce n'est pas un processus inéluctable et très très peu. Dans cette petite minorité qui se radicalise, il y a une toute petite minorité qui peut potentiellement passer à l'acte. Alors, dans les degrés d'implication, on va de la provocation, la revendication, l'idéologisation, jusqu'au fanatisme ou au prosélytisme violent. Identifier des prédispositions à la conversion radicale, des fragilités psychologiques, des vulnérabilités, des failles rendant perméable une personne à la propagande radicale, présente bien sûr un intérêt pour développer des politiques de prévention, mais présente aussi de sérieux écueils, dont celui de passer à côté d'autres facteurs. Et la diversité des profils nous incite, nous rappelle en permanence il faut faire attention à cibler des publics que l'on identifierait comme fragiles et surtout qu'on risque aussi de stigmatiser des catégories de personnes. Les cliniciens repèrent des vécus précoces, donc les adversités dont vous parliez, qui fragilisent la culpabilité et aussi pour d'autres la recherche du plaisir, de la puissance par la violence. Pour Fethi Ben Slama, la radicalisation est une tentative de survie en état d'urgence psychique qui ne signifie ni folie ni irresponsabilité. Il me reste 2 minutes. Les participations du groupe... Les participants du groupe accordent une place très importante à la question de l'affiliation et des liens rompus dans l'histoire familiale et dans l'inscription de la personne dans son environnement social. Le clinicien n'est pas là pour juger des croyances, mais tous les jeunes parlent de Dieu. La religiosité n'est souvent pas le premier pas, le premier motif d'attrait de la propagande pour la propagande djihadiste. Mais une fois le processus de radicalisation bien engagé, la religion devient un point central qu'il faut prendre en compte. Alors, beaucoup de questions, je l'ai dit, ont été abordées lors de ces séances. La question de faut-il développer une prise en charge spécifique ? Est-ce que la radicalisation, les profils de jeunes radicalisés nécessitent une prise en charge particulière ? Est-ce qu'il faut différencier la prise en charge fille-garçon ? Ce qu'on observe, c'est que beaucoup de dispositifs de droit commun fonctionnent. Autre sujet très important, la déontologie, le secret médical, et notamment par rapport à la question du signalement, le signalement au numéro vert. Comme je représente une institution, je vais quand même dire ici que le signalement, ça n'est pas marqué au fer rouge quelqu'un, il y a une cellule d'écoute, certes composée de policiers, mais qui réservistes, qui ont une très grande expérience. Les appels durent une trentaine de minutes. Il y a un vrai discernement, des vraies compétences, et il s'agit quand même de protéger des personnes. Donc, toutes les personnes, appeler le numéro vert, c'est aussi avoir un temps d'échange avec des gens qui ont une très très grande expérience et qui sont capables de dire non, c'est pas de la radicalisation. Voilà, oui, là, 30 secondes. Alors, autre point très délicat, c'est le consentement aux soins. Et les cliniciens insistent aussi sur la difficulté de ces prises en charge, du fait de la labeur très difficile de ces jeunes. Quand ils sont très radicalisés, ils sont effrayants dans la froideur, le fait qu'il n'y a plus d'affect, qu'on ne sait pas du tout comment les accrocher. Un élément intéressant d'ailleurs est que souvent, on n'arrive pas à les faire parler ou seulement de religion. La question de la temporalité, c'est-à-dire qu'il faut prendre le temps de comprendre l'histoire familiale, le contexte, bien étudier. Ils sont très très difficiles à approcher. Beaucoup de cliniciens font de la clinique sans voir les jeunes. C'est quand même assez délicat. Et en même temps, il faut agir vite, prendre des décisions. Donc, je l'ai dit, il y a des dispositifs de droit commun qui fonctionnent. Heureusement, on parle là des mineurs et finalement, l'enfance en danger, toute la politique de prévention et ce qui est mis en place pour l'enfance en danger fonctionne. Donc, ça lève peut-être une partie de la question sur la déontologie et le secret médical. Je me dépêche. Quelques éléments de perspective. Il faut aussi songer que 400 mineurs sont actuellement français, sont actuellement en Syrie et vont rentrer. Voilà, et il va falloir les prendre en charge. Je voulais signaler que c'est très important qu'il y ait des temps d'échange, de réflexion et de la recherche sur ce sujet. La France a peut-être pris un petit peu de retard, donc je signale une recherche-action de la Fédération française de psychiatrie donc qui doit répondre à la question de la place de la psychiatrie sur la radicalisation. Et voilà, on attend avec impatience le résultat. Un travail de la Maison des adolescents et pareil, une recherche-action très prometteuse. Je voudrais signaler que le ministère de la Santé a demandé aux ARS de désigner en leur sein un référent radicalisation qui est actuellement chargé de cartographier. Donc, il s'agit de repérer les services qui peuvent suivre des personnes radicalisées, mais aussi des professionnels libéraux. Qui peuvent se manifester auprès du référent ARS s'ils ont envie de travailler sur le sujet. Les ARS devant en plus mettre en place des sessions de formation des professionnels. J'ai presque terminé. Nous avons besoin de créer des réseaux d'acteurs et d'étayer des professionnels sur le terrain, car sur ce sujet, il est vraiment impossible de travailler seul et impossible de travailler en monodisciplinaire, je dirais. L'exemple, c'est justement la question de la religion, où il ne s'agit pas de faire intervenir, bien sûr, des autorités religieuses, mais il est très utile d'avoir dans les équipes un référent qui va pouvoir donner des clés de compréhension de ce que racontent les jeunes. C'est un exemple. Sur le terrain, on est trop dépendant des réseaux relationnels. Je m'explique. Si le cabinet du préfet connaît telle association, etc., ça fonctionne. Mais sur l'ensemble du territoire, il y a de réels problèmes. Donc, il faut peut-être que les associations, les professionnels qui travaillent sur le sujet se fassent connaître des préfectures qui pleurent en disant « nous n'avons pas de ressources, de personnes ressources ». Voilà, donc manifestez-vous auprès des cabinets préfectoraux ou des ARS. Voilà, j'ai terminé. J'ai dépassé de combien de secondes ? Ouh.